vers la création donc d'un numéro 2 mondial du ferroviaire. Alstom va racheter Bombardier Transport. Le fabricant français de TGV s'est mis d'accord avec le groupe canadien qui souhaite lui se recentrer sur l'aviation d'affaires. Une opportunité unique, souligne la direction d'Alstom qui veut concurrencer la Chine. Les syndicats sont plus dubitatifs. La balle est dans le camp de Bruxelles pour des questions de libre concurrence. Après des premiers débats parfois chahutés, l'Assemblée nationale va se plonger aujourd'hui dans les milliers d'amendements au projet de réforme des retraites pour une deuxième journée d'examen du texte qui s'annonce encore très agitée dans l'hémicycle. Emmanuel Macron est attendu à Mulhouse pour annoncer de premières mesures de lutte contre le communautarisme et le séparatisme islamiste, un dossier politiquement sensible à l'approche des élections municipales. Communautarisme, radicalisation, y a-t-il un modèle belge? C'est la question du jour que vous poserez Hervé Gardette à l'historienne Marie Pelletier pour des matins donc en direct de Bruxelles. À la une encore, le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus qui frôle les 1900 morts en Chine, lourdes conséquences économiques pour le Japon, vous l'entendrez, ou encore pour le groupe Apple. Près de 6 milliards d'euros, c'est la somme que le groupe français Alstom va donc débourser pour s'offrir son rival canadien Bombardier et doubler ainsi de taille ou comment devenir in fine numéro 2 mondial du ferroviaire. Sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence, Alstom devra notamment convaincre la Commission européenne un an après l'échec de la fusion avec Siemens. Retoqué pour des questions de monopole, ce rapprochement permettrait en tout cas de concurrencer le leader chinois du secteur C2RC. Les explications d'Anne-Laure Jumet.
Il lui fallait rebondir après l'échec de sa fusion avec Siemens et avec Bombardier, Alstom trouve un partenaire de taille plus modeste mais qui lui offre des complémentarités, notamment géographiques. Le Canadien est bien implanté en Chine, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays scandinaves et bien sûr en Amérique du Nord. Pour le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, cette opération permet donc de renforcer les positions acquises dans un contexte de renaissance du rail, notamment ces derniers mois du côté des grandes lignes, et il y voit plusieurs raisons.
Évidemment, la campagne contre l'aérien, et on a vu en Scandinavie ou en Allemagne, par exemple, des baisses de l'aérien et des augmentations du trafic ferroviaire, mais également des investissements très lourds faits dans le ferroviaire ces dernières années et qui vont être amplifiés dans les années prochaines via le Green Deal en Europe, les investissements annoncés en Allemagne également. Et donc, le trafic passager grande ligne connaît des taux de croissance totalement inédits. Nous arrivons à 5-6% dans l'année, en Allemagne ou en Europe globalement, bien supérieur à ce que nous connaissions les années précédentes où c'était plutôt de l'ordre de 1-2%.
Une opération offensive et non défensive, assure encore le patron d'Alstom, qui promet qu'elle ne menacera pas l'emploi. Elle permettra aussi aux Français d'atteindre une taille plus critique face au numéro 1 du secteur, le géant chinois C2RC, qui a étendu cette année sa domination sur le vieux continent. Reste maintenant à convaincre la Commission européenne. Sur ce point, le PDG d'Alstom se dit confiant, estimant le dossier très différent de celui présenté il y a un an avec Siemens.
Et le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, doit justement s'entretenir aujourd'hui avec la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, dont le veto avait été très critiqué l'an dernier à Paris et à Berlin. En attendant, l'avis de Bruxelles est loin de la confiance affichée par la direction d'Alstom. À Belfort, les syndicalistes ont demandé à un cabinet d'experts d'analyser les conséquences potentielles de cette fusion entre Alstom et Bombardier. Olivier Coller de la CFDT.
Gagner des parts de marché, ça sera une bonne chose pour le groupe Alstom, mais ça ne veut pas dire que ça sera une bonne chose pour les salariés d'Alstom. Je m'explique. Lorsque nous prenons des commandes, ces commandes ne sont pas obligatoirement fabriquées ici à Belfort ou dans les établissements en France. Il y a énormément de sous-traitance qui est effectuée. Il y a très peu d'informations qui est données aux organisations syndicales, et ça, on ne peut que le regretter. Même si nous sommes vent debout contre ce genre de fusion, ça n'empêchera pas qu'elle puisse s'effectuer. Le risque pour nous en tant qu'organisation syndicale, c'est naturellement les emplois. Auparavant, ce genre de fusion ont toujours entraîné des suppressions d'emplois. Si maintenant on nous prouve le contraire, tant mieux, mais ça sera malheureusement pas le cas.
Olivier Coller, représentant CFDT, au micro de Mado Aublin de France Bleu Belfort-Montbéliard. Il est 7h04 sur France Culture. Emmanuel Macron est attendu à Mulhouse sur le thème de la reconquête républicaine, de la lutte contre le communautarisme et le séparatisme islamiste. À Mulhouse, le président évoquera également la question de l'organisation de l'islam en France. Il veut renforcer le contrôle du financement des lieux de culte. À Mulhouse, donc, le Qatar finance en partie la mosquée An-Nour, qui sera, une fois achevée, l'une des plus grandes de France. C'est ce qu'a révélé le livre Qatar Papers de nos confrères Georges Malbruno et Christian Chesneau. Ils consacrent une grosse partie dans leur ouvrage à cette mosquée qui peut entraîner des risques de communautarisme, Guillaume Schum.
Un chantier titanesque qui a débuté en 2009 sur plus de 10 000 mètres carrés. L'édifice peut accueillir jusqu'à 3 000 fidèles. Quand les travaux seront terminés, ce sera l'une des plus grandes mosquées de France. Ce qui pose problème dans ce projet révèle l'enquête des Qatar Papers. C'est son financement. Le Qatar a mis plus de 14 millions d'euros sur la table sur les 26 millions d'euros de la facture totale. Le Qatar qui souhaite ainsi enraciner et développer l'islam politique en Europe, explique le journaliste Christian Chesneau, l'un des auteurs de l'enquête. Les mosquées sont des centres de vie avec une piscine, des magasins, des bibliothèques pour développer une sorte d'entre-soi. Il n'y a rien d'illégal, on n'est pas dans le financement du terrorisme et cela peut dériver et accentuer le communautarisme. C'est sur ce sujet justement qu'Emmanuel Macron avait déclaré en 2009 qu'il souhaitait aller beaucoup plus loin en renforçant le contrôle sur les financements venant de l'étranger, en étant beaucoup plus dur à l'égard de toutes les formes de cet islamisme politique. Il devrait renouveler ce message aujourd'hui à Mulhouse.
Et Georges Malbruno sera l'invité aujourd'hui du journal de Midi et Demi sur France Culture. Il a écrit avec Christian Chesneau les Qatar Papers sur le financement douteux de certaines mosquées françaises, donc comme la mosquée An-Nour de Mulhouse. Le projet de loi de réforme des retraites est arrivé hier en séance plénière à l'Assemblée nationale. La commission spéciale n'ayant pu aller au terme de ses travaux, les députés planchent donc sur le texte tel qu'il a été rédigé par le gouvernement. Les débats promettent d'être longs et fastidieux. Plus de 40 000 amendements déposés. Retour sur la première journée d'examen de la réforme avec Sarah Tucherer.
Comme un air de bizutage, à gauche de l'hémicycle, les députés ont réservé un accueil musclé à Olivier Véran, ministre de la Santé, fraîchement nommé premier à défendre le projet de loi.
Des discussions se poursuivent encore sur la prévention de la pénibilité, sur le financement et sur l'équilibrage du régime. C'est l'objectif même d'ailleurs de la gouvernance que nous allons mettre en place. Elle n'empêche pas la démocratie parlementaire.
N'interrompez pas l'orateur.
Cet exercice renouvelé de la démocratie sociale.
Monsieur le ministre, regardez droit devant et continuez.
Merci monsieur le président.
Il y a aussi eu ce mini happening des communistes emmenés par André Chassaigne, arrivée salle des quatre colonnes, vêtue de t-shirt avec en lettres rouges ce mot.
Référendum.
Nous savons que nous avons derrière nous, nous avons le peuple uni dans son immense majorité, avec 67% des Françaises et des Français qui souhaitent un référendum. Le peuple doit avoir la parole, c'est d'ailleurs un des fondements de la 5e République.
Leur motion, soutenue par 60 députés de tous bords, a été balayée par un hémicycle encore largement acquis à l'exécutif.
Pour 70 contre 160.
La gauche promet de continuer à utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour ralentir les débats. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a résumé ainsi son objectif. Hollande ne s'est jamais remis de la loi El Khomri. Macron ne se remettra pas de celle-ci.
Et parallèlement au travail de l'Assemblée, les partenaires sociaux démarrent ce matin la conférence de financement chargée de trouver des solutions pour ramener à l'équilibre le système de retraite d'ici à 2027. Une bonne nouvelle pour les finances de l'État dans ce contexte, c'est dans la lutte contre la fraude fiscale. L'an dernier, l'administration a recouvré pour près de 10 milliards d'euros, dont 9 milliards récupérés via les contrôles fiscaux réalisés auprès des particuliers et des entreprises. Cela représente une hausse de plus de 16% par rapport à 2018. Il est 7h08 sur France Culture. La répression des Ouïghours est de plus en plus incontestable en Chine. Une nouvelle fuite de documents a été publiée par 12 médias internationaux, dont Le Monde en France ou encore CNN aux États-Unis. Cette liste de données confirme l'oppression des Ouïghours, cette minorité musulmane dans le Xinjiang, qui s'inscrit dans une politique délibérée du régime chinois. On y revient dans le journal de 7h30. Toujours en Chine, un dissident qui avait critiqué la gestion de l'épidémie de coronavirus par le président Xi Jinping a été arrêté. C'est ce que rapporte Amnesty International ce matin. Les fournitures médicales manquent, les hôpitaux sont débordés, avait-il écrit sur les réseaux sociaux. C'est la pagaille totale, ce qui a donc valu son arrestation en Chine. Au Japon, le gouvernement, lui, commence à être débordé par la multiplication des contaminations au coronavirus, mais il s'inquiète aussi beaucoup des conséquences économiques de cette crise sanitaire. Le pays est maintenant au bord de la récession, Yann Rousseau.
Avant même cette crise du coronavirus, l'économie japonaise, qui est la troisième plus grande de la planète, montrait déjà des signes de grosse fatigue. Le gouvernement a révélé hier qu'il avait enregistré une contraction de son produit intérieur brut, c'est-à-dire une baisse de l'activité, sur les trois derniers mois de 2019. Alors c'est beaucoup lié à une hausse de la TVA début octobre qui avait découragé les consommateurs de se rendre dans les magasins. Et les usines du pays ont, elles, souffert de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ses deux plus gros partenaires économiques. Depuis le début de 2020, les nouvelles ne sont pas meilleures. Avec l'épidémie de coronavirus, les touristes terroristes chinois se sont volatilisés. Ils sont pourtant cruciaux pour de nombreuses entreprises ici. Et la population japonaise commence elle aussi à s'inquiéter. Alors même s'il n'y a que quelques dizaines de cas de virus, les habitants commencent à bouder les grands magasins et les restaurants le soir. Et les usines japonaises expliquent qu'elles craignent de manquer de composants qui viennent habituellement de Chine. Vous savez que beaucoup d'entreprises sont toujours à l'arrêt en Chine sur ordre de Pékin, qui préfère multiplier les mises en quarantaine. Et donc Tokyo s'inquiète vraiment d'un gros ralentissement en ce début 2020. Et quand la Chine et le Japon vont mal, eh bien c'est toute l'Asie qui tousse. Singapour vient d'annoncer qu'il craignait aussi une récession. La Thaïlande et la Corée du Sud mettent également en garde contre un gros coup de frein économique. Ce refroidissement va avoir forcément des conséquences en Occident. L'Asie, c'est maintenant presque la moitié de l'économie de la planète.
Les conséquences du coronavirus sur l'économie française, c'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h24 sur France Culture. En Syrie, le représentant des Nations Unies réclame un cessez-le-feu immédiat dans la province d'Idlib où le régime progresse depuis décembre dernier. 900 000 personnes ont désormais été déplacées par cette offensive contre le dernier bastion rebelle, selon un dernier décompte de l'ONU. Hier, le régime a fini de reprendre la quasi-totalité de la métropole d'Alep qui jouxte Idlib. Le régime de Bachar al-Assad a même annoncé la réouverture de l'aéroport de la deuxième ville de Syrie, autrefois poumon économique du nord du pays. En Irak, la coopération entre les forces de sécurité et la coalition internationale a du plomb dans l'aile. Après l'assassinat du général Qassem Soleimani, les troupes étrangères déployées dans le pays pour combattre le groupe État islamique ont annoncé la suspension de leurs opérations pour des questions de sécurité. Depuis, elles ont repris peu à peu leurs activités, mais de manière limitée. Sur le terrain, les forces irakiennes se passent du soutien aérien de la coalition dont elles bénéficiaient depuis 2014. Notre correspondante en Irak, Lucille Wasserman, a suivi l'une de ces unités au nord du pays.
Au milieu des champs qui s'étendent à perte de vue, des centaines de membres de la police fédérale patrouillent en rang, fusils d'assaut à la main et gilets pare-balles sur le dos. Comme chaque semaine, ils s'enfoncent dans cette vaste campagne difficilement maîtrisable à la recherche de membres de l'État islamique. Le commandant Fakir Dahir Ali ouvre la marche.
C'est facile de se cacher ici. C'est vaste et il y a cette forêt, les arbres sont hauts. Ça leur permet de vivre ici sans être vus, même pas par les avions.
Quelques mètres plus loin, des vêtements couverts de terre et un matelas jonchent le sol.
Regardez là, ce sont des vêtements. Qu'est-ce que c'est? C'est un pantalon? Oui, c'est un pyjama. Nous sommes sur une de leurs positions ici.
La zone est connue pour être un repère de djihadistes. À plusieurs endroits, de larges cratères témoignent encore des récentes frappes aériennes conduites par la coalition internationale.
Les Américains avaient envoyé 3 missiles ici sur une position de Daesh. Le jour d'après, on avait envoyé nos troupes pour nettoyer la zone. On a trouvé des détonateurs, des mortiers ou encore des explosifs.
Depuis janvier et la mort du général Qassem Soleimani, ces opérations conjointes restent limitées. Le commandant Fakir ne se montre toutefois pas inquiet.
Si vous voulez mon avis, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'eux. On a notre armée. Après, la décision de leur rôle dans le pays revient au pouvoir central.
Pour l'heure, Bagdad travaille à un compromis, envisageant un transfert des activités de la coalition à la mission de l'OTAN dans le pays.
Lucille Wasserman en Irak pour France Culture. Le temps de ce mardi 18 février, mitigé, pluvieux au fil des heures dans le nord du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 9 et 11 degrés sur la moitié nord, 11 à 18 au sud.